c'est moi du retard.
L'analyse d'Aristote sur l'imagination est la première dans ce domaine. Il est le premier à la considérer pour elle-même. Dans sa recherche sur l'âme, où il précise qu'elle est substance en tant que forme du corps naturel, ayant la vie en puissance, et donc qu'elle est acte, et où il dit qu'elle est ce par quoi le vivant exerce les opérations vitales, Aristote veut aller plus loin en étudiant ces diverses opérations vitales. Chacune d'entre elles a un objet dont elle dépend. Il étudie d'abord ceci. Ainsi, il a traité de l'aliment, de la procréation du sensible. Avant de considérer l'intelligible, il pose le problème de l'imagination, qui est un intermédiaire entre le monde sensible et le monde intelligible. Le point délicat de cette déviation, c'est que l'imagination n'a pas d'objet propre existant avant son activité, comme pour les opérations de la vie végétative, sensitive ou intellectuelle. Selon son habitude, Aristote commence son étude en partant d'affirmations généralement reconnues et il reprend la question étudiée de façon radicale. Je cite « C'est donc par deux propriétés distinctives principales que l'on définit l'âme, le mouvement local et le fait de penser et le fait de prévoir. D'ordinaire, on considère le fait de penser et celui de prévoir comme un certain sentir. » De fait, il y a entre ces deux propriétés quelque chose de commun. Dans les deux cas, l'âme discerne et connaît une réalité quelconque. C'est pourquoi les anciens identifiaient l'intelligence et la sensation. Pour eux, la pensée était une réalité corporelle, et de là, ils estimaient que le semblable sent et pense par le semblable. Aristote remarque alors qu'ils auraient dû traiter en même temps de l'erreur. Car elle est plus habituelle aux animaux et constitue plus souvent le séjour de l'âme. Aristote n'accepte pas l'identification entre le fait de sentir et celui de prévoir, et il en donne déjà la raison du côté de l'extension. En effet, la sensation appartient à tous les animaux, tandis que le fait de prévoir n'appartient qu'à un petit nombre d'entre eux. Au surplus, le fait de penser, qui peut être vrai ou faux, n'est pas identique à la sensation, puisque celle-ci, pour les sensibles propres, est toujours vraie et appartient à tous les animaux, et que la pensée n'appartient qu'à ceux qui possèdent la raison. Aristote, pour mieux marquer la différence entre sensation et intelligence, va discerner un moyen terme qui est l'imagination. Cette étude, distinguant nettement sensation, imagination et connaissance intellectuelle, permet de bien situer les divers degrés de connaissance et les sources d'erreurs. Il commence par situer l'imagination par rapport à l'acte d'admettre, l'hypolepsis, et ensuite par rapport à la sensation. De là, il peut considérer les différences entre l'imagination, facilement sujette à l'erreur, et l'activité propre de l'intelligence. Je cite, « L'imagination est distincte de la sensation et de la pensée discursive, mais elle ne peut pas naître sans la sensation, et sans elle, il ne peut pas y avoir d'acte d'admettre, de croyance, de supposition. Il est patent que l'imagination n'est pas la même chose que la pensée ou que l'acte d'admettre, puisqu'elle dépend seulement de nous. On imagine ce qu'on veut, quand on veut, tandis qu'en formant une opinion, on est soit dans la vérité, soit dans l'erreur. Pour établir cette distinction entre fantasia et dianoia, Aristote introduit la notion d'acte d'admettre et de penser, et son développement est axé sur l'opinion, l'opinion manifestant l'hypolepsis et noesis. Il apparaît que l'hypolepsis est pour le philosophe une importance capitale parmi les activités de l'intelligence, puisqu'il dit que science, opinion et prudence et leur contraire en sont des variétés. puisque l'acte d'admettre ne peut s'exercer sans l'imagination, et puisqu'il est l'activité fondamentale de l'intelligence, on comprend qu'Aristote montre en premier lieu ce qui distingue ces deux types de connaissances, afin qu'on n'assimile pas l'un à l'autre. La partie principale rendant compte du tout permet d'avancer que si l'imagination est distincte de l'hypolepsie, elle est alors distincte de la pensée discursive. D'abord, le philosophe utilise deux arguments pour distinguer imagination et doxa, l'élément de l'hypolepsis, quant à leur modalité d'exercice. Le premier, le fait qu'on puisse imaginer ce qu'on veut quand on veut, caractérise l'indépendance de l'imagination par rapport à la réalité existante. Elle n'implique ni vérité ni erreur. L'homme a donc un plus grand pouvoir sur l'imagination que sur l'opinion, parce qu'il est dans ce domaine libre de toute détermination extérieure. Ce type de connaissance ne dépend que de la volonté de celui qui l'exerce. Le second argument, les répercussions affectives de l'exercice de l'imagination sont très inférieures à celles de l'exercice du fait d'opiner. Et je cite, lorsque nous formons l'opinion qu'un objet est terrible ou effrayant, aussitôt nous éprouvons l'émotion correspondante, de même si l'objet est rassurant. Au contraire, dans le jeu de l'imagination, notre comportement est le même que si nous contemplions en peinture les objets terribles et rassurants. C'est-à-dire que l'émotion est très faible. Les effets des exercices du fait d'imaginer et du fait d'opiner sont différents, donc les causes le sont aussi. L'imagination atteint beaucoup moins notre vie affective que l'opinion. C'est donc la double indépendance de l'imagination à l'égard de la réalité existante et des réactions affectives qui montre l'irréductibilité de cette opération à l'opinion. Elle est une connaissance plus soumise à notre vouloir et moins engagée affectivement. Elle est coupée du réel. Jusqu'ici, Aristote n'a pas défini l'imagination, il l'a juste située par rapport aux divers degrés de connaissance, ceux au niveau de l'exercice. Il en donne maintenant une définition très générale. Je cite. Si donc l'imagination est cette fonction dont on dit qu'elle produit en nous l'image, fantasia désignant toute faculté de connaissance, elle est parmi d'autres une faculté ou un état qui permet de discerner si nous sommes dans la vérité ou dans l'erreur. Mais telles sont aussi la sensation, l'opinion, l'intelligence, la science. Cette définition montre le point commun entre l'imagination et la sensation, l'opinion, l'intelligence, la science. Le discernement, c'est le discernement de la vérité ou de l'erreur. Aristote veut distinguer ensuite l'imagination de cette autre connaissance qu'est la sensation, sans laquelle elle ne peut pas être. Il considère 6 éléments de divergence. Que l'imagination ne soit pas la sensation, en voici la preuve. Premièrement, la sensation est puissance ou acte, vue ou vision. Par contre, une image peut se produire même en l'absence de l'une et de l'autre. La sensation est soit puissance, soit acte dans l'ordre de l'exercice, car elle dépend du milieu et de la forme de l'objet, tandis que l'imagination porte en elle la forme et le milieu. Elle n'est ni puissance ni acte. Elle est toujours déterminée par celle qu'elle porte en elle, par toutes les formes qu'elle porte en elle, mais pas toujours de façon ultime. Donc l'imagination échappant au réel, elle échappe aussi à la distinction puissance et acte. Le deuxième élément de divergence, la sensation est toujours présente, tandis que l'imagination ne l'est pas. La sensation est toujours présente avant d'être en exercice, toujours présente à la vie animale dont elle est le propre, ce qui n'est pas le cas de l'imagination. Le troisième élément de divergence, si d'autre part elles étaient identiques en acte, toutes les bêtes pourraient posséder l'imagination. Ici, Aristote considère la différence du côté de l'extension. Quatrièmement, en outre, les sensations sont toujours vraies, tandis que les images sont le plus souvent fallacieuses. La sensation est toujours vraie, car elle est plus naturelle que l'imagination. Celle-ci, au contraire, est la plupart du temps fausse, car elle est une connaissance moins déterminée. C'est le manque de détermination qui conduit à l'erreur. Cette quatrième raison est la plus profonde et la plus propre à la nature de la connaissance. Le cinquième élément. De surcroît, nous ne disons pas, lorsque notre activité sensorielle s'exerce avec exactitude sur l'objet sensible, que cela nous paraît être l'image d'un homme. C'est bien plutôt quand nos perceptions manquent de clarté. C'est alors qu'intervient la sensation vraie ou celle fausse. Aristote veut dire ici que lorsque la sensation est affaiblie, confuse, elle est parfois fausse, car l'imagination vient suppléer à cette faiblesse. Sixième élément de divergence. Enfin, des images visuelles apparaissent même quand on tient les yeux fermés. L'imagination est relative aux sensations, puisqu'elle les présuppose pour exister. Mais elle a aussi son autonomie, car elle s'exerce sans les sensations. Ce développement succinct de 6 arguments marque les caractères de l'imagination par rapport à ce qu'est la sensation. C'est une grande autonomie à l'égard de la réalité existante. L'indépendance vis-à-vis de la présence physique des réalités imaginées. L'imagination est non liée fondamentalement à la vie animale. C'est une indétermination par rapport à la vérité et une fonction de suppléance des sensations imparfaites qui peut les suppléer même totalement. Toutefois, l'imagination ne peut pas apparaître sans les sensations. Cet ensemble de caractères laisse entrevoir la difficulté de définir ce qu'est cette opération vitale. Aristote, ayant montré la faiblesse de l'imagination en rapport à la vérité, il peut alors mieux considérer la différence entre l'imagination et les actes propres de l'intelligence. Je cite, « Mais l'imagination ne pourra non plus s'identifier à aucune des opérations qui sont toujours vraies, comme la science ou l'intelligence, car l'imagination est aussi bien trompeuse. » C'est ici le caractère essentiel de l'imagination qui permet de la distinguer des autres connaissances. L'imagination est donc une connaissance imparfaite. Il faut aller plus loin pour saisir la différence entre imagination et opinion, car l'opinion aussi est sujette à l'erreur. Aristote poursuit donc, reste donc à savoir si elle se ramène à l'opinion qui peut être soit vraie soit fausse, mais en réalité, l'opinion entraîne la conviction, car il est impossible d'avoir une opinion sans y ajouter foi. Or, aucune bête n'est capable de conviction, tandis que beaucoup d'entre elles possèdent l'imagination. De plus, l'opinion suppose toujours la conviction suppose la persuasion la raison, logos. Or, parmi les bêtes, certaines possèdent l'imagination, mais n'ont pas la raison. Il est donc évident que l'imagination ne saurait être ni une opération accompagnée de sensations, ni l'opération produite par la sensation, ni une combinaison d'opinions et de sensations. C'est par les effets propres de ces deux opérations qu'on les distingue. D'abord, l'opinion implique la foi. Elle a une orientation vers la vérité. Or, les animaux ne peuvent pas la voir, donc l'imagination ne peut pas la causer. L'imagination est plus radicalement indéterminée que la doxa à l'égard de la vérité, puisqu'elle ne permet pas d'adhésion de foi. Ensuite, la doxa conduit au logos grâce à la persuasion, lequel n'existe pas non plus chez l'animal. Donc l'imagination n'a rien à voir avec l'opinion. L'opinion, parce qu'imparfaite, demeure indéterminée, mais elle demande à l'être, alors que l'imagination est indéterminée de par sa nature. Elle ne peut pas sortir de son indétermination par elle-même. Elle n'est pas ordonnée au logos. cette première étape de l'étude sur l'imagination faite, Aristote revient sur les opinions des philosophes antérieurs et il explique en quoi l'opinion est différente de la sensation et donc que l'imagination est un intermédiaire entre vie sensible et vie intellectuelle. Et enfin, il traite de définir lui-même l'imagination.
Après avoir distingué l'imagination de la sensation et de l'opinion, après avoir resitué brièvement toutes nos connaissances les unes par rapport aux autres, Aristote considère l'imagination pour elle-même. Je cite « L'imagination est, semble-t-il, un mouvement. » C'est ainsi qu'il commence son analyse, sans même préciser de quel mouvement il s'agit. Dans son étude sur la faculté sensitive, il précisait tout de suite en parlant d'altération et en indiquant l'objet de cette faculté. Ici, nous pouvons affirmer que ce manque de précision à l'égard de l'imagination est parfaitement volontaire de la part du philosophe. Conformément à ce qu'il nous dit au chapitre 2 du livre 3 de sa physique, où Aristote définit le mouvement comme un certain acte inachevé pourtant, il annonce ici d'une manière implicite qu'avec l'imagination, nous avons affaire à une connaissance imparfaite qui n'a pas d'objet propre, parce que l'image n'est pas un objet extrinsèque, mais bien plutôt un fruit immanent. L'imagination produit une image, mais cette image n'existe que par et dans l'activité de l'imagination. Elle n'existe pas antérieurement. Ainsi, si Aristote en reste délibérément à la notion de mouvement, sans préciser davantage, c'est pour nous faire saisir qu'il s'agit du devenir dans l'ordre de la connaissance sensible. L'imagination est un mouvement qui ne peut se comprendre que comme intermédiaire entre l'activité sensible extérieure et l'opinion. Aristote poursuit et nous dit « Elle ne peut se produire sans la sensation, n'est accordée qu'aux êtres sentants et porte sur les mêmes objets que la sensation. » Il précise ici ses conditions d'exercice et d'existence. L'imagination doit être saisie premièrement dans le prolongement de la sensation. Elle est en effet, je cite, « un mouvement engendré par la citation, par la sensation. » Provenant de la sensation, l'imagination lui est semblable sans pour autant s'identifier à elle. Elle demeure une connaissance sensible. Pour reprendre une expression de saint Thomas, avec la troisième réponse du premier article de la question 85, disons que l'image n'est rien d'autre qu'une ressemblance d'êtres individuels. Les images représentent des êtres matériels et individués. Elles ne dépassent jamais le domaine du singulier. Retenons ici que même si par ailleurs, comme nous allons voir, l'imagination peut avoir une grande extension, une créativité étonnante, elle ne sort pas du domaine de ce qui a été senti, et c'est pourquoi Aristote précise bien que l'imagination porte sur les mêmes objets que la sensation. Il ajoute « Un mouvement de cette sorte permettra au sujet d'exercer et de subir des actions très diverses. Il sera enfin susceptible de vérité aussi bien que d'erreur. » Voici ce qui caractérise l'imagination, le poyen, le faire, car le paskein, la passion, est commun à l'imagination et à la sensation. L'imagination est une connaissance qui fait et qui pâtit. D'autre part, à la différence de la sensation, elle est vraie ou fausse. Par le point de vue du vrai et du faux, nous allons préciser différents types d'imagination. À ce niveau de l'analyse, Aristote nous rappelle ce qu'il a déjà dit au chapitre 6 du livre 2, à savoir que la sensation est spécifiée par son objet, le sensible. Ainsi, nous avons la sensation des sensibles propres, la sensation des sensibles propres appartenant à quelqu'un par accident, et en troisième lieu, la sensation des sensibles communs. Ceci établi, on serait tenté de conclure que puisqu'il y a trois sensibles, il y a trois types d'imagination. Ce n'est pas ce qu'Aristote nous dit. La hiérarchie des diverses imaginations ne peut se faire que par les diverses sensations. Les diverses imaginations n'ont pas en elles de principes propres qui permettent de les hiérarchiser selon leur perfection propre. Ces diverses imaginations, spécifiquement, sont les mêmes. Le seul moyen d'analyser, c'est de le faire en dépendance des diverses sensations qui sont à leur origine. C'est bien ce qu'Aristote affirme quand il écrit, je cite, « Le mouvement produit par la sensation en acte variera selon qu'il provient de l'une ou de l'autre de ces trois espèces de sensations. » Le mouvement de la première sorte, tant que la sensation est présente, est vrai. De fait, il n'y a qu'un seul cas où l'on puisse dire que la sensation est vraie, c'est lorsqu'il s'agit de la sensation des sensibles propres. On retrouve dans l'imagination, dans le mouvement issu de cette sensation, le même caractère de vérité. Le caractère de vérité de la sensation des sensibles propres se prolonge jusque dans l'imagination qui en procède. Les deux autres cas de sensation impliquent certaines possibilités d'erreur. Les sensibles propres sont indivisibles par eux-mêmes. La possibilité d'erreur provient de la composition. Dans la sensation du sensible par accident, ce n'est plus blanc qui est vu, mais ce blanc. Du fait même qu'il y a l'intervention du sujet, il y a un deuxième élément qui intervient, et donc il y a composition. Dès qu'il y a composition, il n'y a plus de connaissance directe, et donc il y a possibilité d'erreur. Il y a possibilité de faire une mauvaise composition. Je prends un exemple. Ce blanc, on pense que c'est un mur et ce n'est qu'un décor en carton. Cette possibilité d'erreur se retrouve dans le mouvement imaginaire provoqué par cette sensation. Enfin, Aristote souligne que c'est à l'égard des sensibles communs que la possibilité d'erreur est la plus grande. Ces sensibles sont dérivés des sensibles accidentels. Ils sont donc rattachés aux sensibles propres par les sensibles accidentels. Il y a donc à leur égard une double composition, d'où une double possibilité d'erreur. Cette possibilité d'erreur, là encore, se retrouve dans le mouvement imaginaire. Et Aristote précise, il risque d'être faux par-dessus tout si le sensible est éloigné. La proximité ou l'éloignement du sensible dans le temps et le lieu est un deuxième facteur qui intervient dans les différentes possibilités d'erreur dans l'imagination. Aristote ne précise guère davantage ce que nous pouvons dire sur l'imagination. Efforçons-nous, sans aller trop loin dans l'interprétation, d'en savoir plus. L'imagination en tant que mouvement de la sensation des sensibles propres se fait dans le prolongement direct de la sensation. Toute sensation engendre spontanément ce premier type d'imagination. Si nous fermons les yeux, nous pouvons nous représenter ce que nous venons de voir. Ce qui est alors représenté, bien que n'ayant plus qu'une individualité vague, peut quand même être défini comme la formation instantanée d'un décalque atténué de la réalité sentie. Et c'est pourquoi ce premier mouvement de la sensation est le plus vrai de tous. À ce niveau, l'imagination ne s'oppose pas aux sensations externes. Elle demeure en continuité avec elles. Elle les achève, les prolonge, leur permettant d'avoir une plénitude plus grande. C'est ici l'imagination qui coopère avec les sensations externes, en acceptant de ne pas être à elle-même sa fin propre. C'est l'imagination au service de la sensation. Mesurée directement par elle. À ce niveau, les sensibles communs n'ont pas encore un rôle capital dans l'image ainsi formée. Dans la mesure où l'image est en continuité vitale avec la sensation, l'activité n'est pas encore créatrice. Elle ne fait que rassembler les données de la sensation pour en faire une représentation synthétique. Il y a bien déjà une certaine transformation des éléments saisis dans la vision, dans le toucher, mais celle-ci reste faible. L'imagination, en tant que mouvement produit par la sensation des sensibles communs, présente, elle, des aspects très différents. Les sensibles communs, se prenant du côté de la quantité, du divisible, vont pouvoir s'additionner, se réunir, être intégrés dans un tout. C'est précisément ce que fait l'imagination à ce niveau. Grâce aux sensibles communs, l'imagination va pouvoir acquérir une certaine autonomie, justement en formant ses propres synthèses. Ici, l'imagination va mettre en relief les sensibles communs et d'elle-même, elle va pouvoir les unir, les intégrer à sa façon, en créant ainsi son univers. Elle reconstruit un monde à part qui apparaît comme un tout isolé. L'image de ce point de vue a une certaine valeur absolue et peut alors s'imposer avec une très grande force de séduction. On comprend alors comment l'imagination peut avoir ce pouvoir d'accaparement extraordinaire et unique qui compense la faiblesse même de l'image du point de vue de la réalité existentielle. Et c'est aussi à ce niveau que nous pouvons voir le danger d'une telle imagination, car si de fait l'image peut nous éblouir en quelque sorte, elle peut alors arrêter la connaissance et très vite devenir la rivale de la réalité. C'est là tout le danger, parce que alors, elle peut accaparer tout notre capital de vie et nous tenir comme enfermés en son propre univers irréel. Elle est alors coupée de la réalité. Aristote n'a pas voulu étudier ce phénomène de l'imagination qui tend à se séparer de la réalité expérimentée. Il se contente de nous donner les fondements d'une telle étude. Et il termine ce chapitre 3 en nous rappelant l'étymologie du mot, selon laquelle « fantasia » vient de « phaos », lumière. Ce mouvement qu'est l'imagination est relié spécialement à la vision, car celle-ci est la sensation par excellence. Au sujet de l'imagination, de sa nature et de sa cause, bornons là notre exposé. C'est ainsi qu'Aristote achève ce chapitre. Pour cette étude qui nous dispose bien à l'analyse de l'intellection, retenons que l'imagination est essentiellement un intermédiaire entre l'activité sensible extérieure et l'opinion. Qu'elle n'est pas la sensation, mais un mouvement qui en procède, portant sur les mêmes objets que cette dernière. Cette sensation interne est susceptible de vérité aussi bien que d'erreur, et ne peut se subdiviser que selon ce critère, relativement à la sensation, puisqu'elle n'a pas de fin propre. Face à notre monde d'aujourd'hui qui se noie dans l'imaginaire, il est bien évident que cette première analyse fondamentale doit être prolongée par un regard philosophique sur la cogitative, la mémoire et le rêve, de façon à pouvoir mieux situer son importance, sa richesse, mais aussi le danger que cette imagination représente dans sa force de séduction.
Le discernement de la vérité ou de l'erreur, j'avais dit. Le point commun entre sensation, opinion, imagination, sensation, opinion, intelligence, science.
Le discernement de
la... Par rapport à l'imagination par elle-même, n'est ni vraie ni fausse. C'est l'imagination par rapport à la réalité où il peut y avoir une erreur. Alors, comment elle intervient pour le discernement?
Est-ce que le discernement entre la vérité et l'erreur, c'est uniquement dans l'intelligence? Plus ou moins précise, quelle peut être l'image au point de vue de la vérité et de l'erreur, justement, de votre imagination?
Par rapport au point commun, comme tu disais tout à l'heure, on peut déjà dire que c'est une connaissance, première chose à dire, que ce soit du côté de l'opinion, du côté de la science, et avec l'imagination, on peut parler déjà de connaissance, c'est la première chose à dire. C'est ça le point commun, moi je le vois là. Et il parlait d'hypolepsis aussi, je crois que c'est dans la mesure où il y a une adhésion avec...
Justement, l'hypolepsis,
c'est l'acte d'admettre.
Mais c'est quoi exactement? Est-ce que c'est le jugement, l'acte d'admettre?
L'hypolepsis implique un jugement sur moi.
Mais il n'y a pas de jugement.
C'est très difficile de voir ce que c'est.
C'est justement dans le chapitre 4, quand il discerne le jugement, c'est Fronaïde.
Fronaïde. Mais dans le sens profite, dans le sens prudence.
Comment il traduit sa mère?
Oui, la sagesse pratique.
Mais pourquoi il parle, quand il distingue les deux opérations, le jugement et l'appréhension,
il ne parle pas
de l'hypothèse. Donc c'est pas. Est-ce que l'hypothèse, c'est pas quelque chose de plus fondamental?
Oui.
Et la traduction-là, c'est traduit par croyance.
Mais...
Dans le sens où elle est source de fantasmes.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est dans le sens où l'imagination est source de fantasmes, qui fait qu'on peut discerner si on est dans la vérité ou dans l'erreur.
Oui. Non.
Parce que on a besoin de l'imagination pour quel concept ?
Oui.
C'est à partir de là où il y a une apparenté entre l'imagination et puis les autres connaissances. Enfin, entre l'opinion, science, intelligence. Le discernement de la vérité et de l'erreur.
C'est une connaissance sensible, une connaissance seconde, qui n'est jamais directement en relation avec le réel, qui par le fait même n'est jamais directement en relation avec le réel, ne peut pas être vraie ou fausse, puisqu'elle n'est pas mesurée.
Parler vraiment de vérité.
Il n'y a pas de rapport.
Alors, moi, je répondrais comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on regarde l'imagination en tant que production d'image, si je regarde l'image dans l'imagination, là, je ne peux rien dire sur la vérité. Mais si je regarde l'imagination en tant que mouvement qui procède de la sensation, je regarde l'imagination relativement à la sensation. Et là, je reprends contact avec la réalité. Et donc là, je peux parler de vérité. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'arrive à peu près à distinguer divers niveaux dans l'imagination, dans son lien avec la sensation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'imagination, en tant qu'elle procède de la sensation, par la sensation, j'ai un contact avec le réel. Et donc, le rapport réel et pensée, connaissance, ça, là, je peux parler de vérité.
Oui, mais faisons attention. Hein. Elle transforme. Elle est liée à la sensation, mais elle la transforme.
Oui, mais alors elle la transforme plus ou moins. Et c'est comme ça qu'Aristote peut parler qu'il y a...
Elle la transforme plus ou moins, selon que son exercice est plus ou moins autonome.
C'est ça.
Quand son exercice, par exemple, quand nous parlons ici, que nous sommes en contact, bon, nous sommes en contact avec le réel et l'intelligence, l'aspect synthèse de l'imagination est très peu.
Oui, c'est ce que je développais dans ma partie là.
C'est ça.
Là, ici. Donc, dans la mesure où c'est un prolongement immédiat,
oui.
Et bien dans ce cas-là, la synthèse de l'imagination est faible.
Est très faible.
C'est là où il y a plus de vrai.
C'est forcément.
Et alors, dans la mesure où l'imagination.
Mais y a-t-il du vrai? C'est là la question. Y a-t-il du vrai ? Parce que l'imagination, quand même, transforme la sensation. Même si elle reste en relation. Elle...
Aristote ne dit pas vraiment... il n'est pas si absolu. Il dit, c'est là où il y a le plus de vrai.
Oui, le plus. Voilà.
Mais
plus
il dit pas,
de vrai. Attendez, hein. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Le texte...
Le joli, le mouvement de la première sorte, tant que la sensation est présente, est vrai. Ça, c'est la traduction.
Mais oui, tant que la sensation présente est vraie.
C'est relativement la traduction. À la sensation.
Et le test grec, attendez.
Dans sa relation avec la sensation,
oui.
Je persiste à dire qu'il y a du plus et du vrai, du plus et du moins dans le vrai.
Oui, mais non,
c'est comme ça qu'on arrive à différencier.
C'est en fonction de la sensation.
Ben oui, ouais, exactement.
Puis c'est pour ça qu'elle participe de la sensation, ouais. Parce qu'elle provient de la sensation.
C'est ça. Et c'est par l'intermédiaire des sensibles communs, propres et accidents qu'on arrive à pénétrer plus loin.
Oui, tout à fait.
Justement parce que les sensibles communs se prennent du domaine de la quantité et donc sont divisibles. Et c'est en ce sens-là où la synthèse peut aller beaucoup plus loin et donc être de plus en plus erronée.
Parce que les sensibles propres ne peuvent pas faire de synthèse. Oui. L'élément de synthèse ne peut provenir que des sensibles communs.
Oui.
Et c'est pour ça que de fait, dans l'image, il y a comme une espèce d'inversion par rapport aux sensations. C'est les sensibles communs qui sont premiers.
C'est ça.
Et c'est dans ce sens, ça veut dire...
justement parce qu'elle fait cette synthèse des différents sensibles, c'est ça?
C'est pour ça qu'elle est en mouvement. Oui. Elle est un mouvement dans la connaissance. C'est pas un mouvement extrinsèque à la connaissance. C'est un mouvement dans la connaissance. Oui, c'est un mouvement à l'intérieur même de l'intentionnalité, des formes intentionnelles. Elle n'est pas un mouvement physique, elle est un mouvement de la connaissance. Elle s'enracine dans les sensations. Et elle prolonge les sensations. Oui.
L'imagination. Est-ce qu'on pourrait réfléchir sur le rôle de l'imagination dans un jugement de sagesse? Pourquoi l'abstraction de la connaissance demande cette non-adéquation en fait à la sensation? Qu'est-ce qu'apporte cette...
Oui, mais oui, dans un jugement de sagesse, la sensation est présente à titre d'exercice parce que je ne peux jamais connaître sans sensation, sans imagination, je veux dire. Mais c'est pas elle que je regarde. Tandis que quand je me pose la question, y a-t-il vérité dans cette connaissance? C'est l'imagination que j'essaie de comprendre comme type particulier de connaissance. Comme elle est un mouvement, elle implique du plus et du moins. Elle est tout le temps plus et du moins. Et, je dirais, à la différence de la sensation, qui peut être une sensation pure, l'imagination ne peut pas être une imagination pure. Impossible. Donc elle est toujours dans un fluxus. Et ce fluxus est plus ou moins proche de sa source, ou plus ou moins loin de sa source. Et quand il est loin de sa source, alors à ce moment-là, il s'isole de plus en plus de la sensation pure. Oui. Et il y a le plus, la donnée subjective qui vient de nous, qui est plus grande.
Qu'est-ce que ça apporte à l'homme, ce fluxus?
Ce fluxus, il apporte une espèce de manipulation de vos sensations. Vous manipulez vos sensations par l'imaginaire. Et ça donne quand même à l'homme le premier moment de l'autonomie. Dans les sensations, vous êtes complètement dépendant du réel qui est présent. Dans la sensation, vous avez le premier moment d'intériorité sensible et d'autonomie. Vous êtes bien plus autonome, vous imaginez quand vous voulez.
L'intérêt de l'imagination, on peut la comprendre aussi par rapport à l'activité artistique.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais...
Il n'y a pas d'art, il n'y a pas de création possible si, à mon avis, s'il n'y a pas d'imagination.
Parce que c'est le premier moment de l'autonomie.
Ah oui. C'est peut-être un élément de réponse. Mais fondamentalement, pourquoi dans une vision de sagesse, l'imagination, moi je répondrais parce qu'il y a l'union de l'âme et du corps. Et que notre connaissance commence par la sensation, par le corps, pour peu à peu, par degré, si je puis dire, s'intellectualiser, quoi, devenir de plus en plus séparé du domaine de la réalité tangible. Et alors, donc, parmi tous ces intermédiaires, il y a l'imagination. Et on est obligé de passer par l'imagination pour passer de la connaissance sensible à la connaissance intellectuelle. Et on constate que ça ne peut pas se faire autrement.
En fait, c'est un instrument, finalement.
Oui, moi je vois ça. Bah oui, c'est une connaissance. Un instrument qui n'a pas de fin propre et qui est soit au service de la sensation, soit au service de la connaissance intellectuelle. Par exemple, elle est au service de la sensation quand la sensation, par elle-même, fait défaut. Emmerich le disait bien. Quand la sensation est pour, l'imagination vient suppléer. Moi, je vais prendre un exemple très concret. Si vous êtes sur la route, vous conduisez, et il y a du brouillard. Je prends un exemple concret. Bah, vous voyez une tache, là, une tache au loin. Votre sensation ne voit qu'une tache. C'est l'imagination qui va pouvoir vous dire eh ben, tiens, c'est peut-être un cycliste, faisant attention. Enfin, imagination plus cogitative. Mais tu vois, dans ce sens-là, l'imagination vient suppléer à la déficience de la sensation. Et par rapport à la... Et l'imagination est au service de la connaissance intellectuelle, par l'intermédiaire de l'intellect agent, on voit bien. Il faut l'image pour que l'intellect agent puisse opérer. Et je ne peux penser qu'avec une image. Ça, c'est tout à fait étonnant, mais c'est vrai. Même quand je pense de Dieu, même quand je rentre en contemplation avec Dieu, l'imagination est présente. Et ça, on comprend bien, puisque Dieu est atteint per modum causalitatis, per modum eminentiae, et puis negationis, et bien, par ça, on voit bien qu'il faut une image à chaque fois.
Le lien avec le. Alors, tu dis, les hommes du cyclisme.
Le lien entre imagination et
Les rapports entre la supposition, l'hypothèse et l'imagination.
C'est
oui,
ça.
L'imagination permet l'hypothèse et les. Et c'est comme pour l'inspiration de l'artiste. S'il n'y a pas l'imagination, il ne pourrait pas.
L'intuition.
Il pourrait pas avoir l'intuition, non.
Est-ce que c'est pas plutôt quand on voit. Je ne savais pas que c'était l'imagination.
Elle se donne
un objet parce que c'est une connaissance. Mais c'est un objet, elle se donne un objet subjectivement. C'est le primat du subjectif à l'imaginaire.
C'est plus correct de parler de fruit. Le fruit qu'un objet, parce que l'objet implique quand même quelque chose d'extérieur par rapport à la famille.
Non. L'objet, c'est la détermination.
Mais qui existe indépendamment de.
Non, mais non, elle se le crée.
Non.
Elle
est déterminée.
Pour l'imagination, d'accord.
Non,
oui.
Non.
Mais l'objet en tant que tel.
L'objet et le sujet, c'est à l'intérieur de l'analyse d'une connaissance que vous voyez ce qui détermine une connaissance et ce qui provient du sujet. Ce qui détermine la connaissance, c'est l'objet. Et ce qui provient de l'activité propre du sujet, c'est l'aspect subjectif. Sujet et objet est à l'intérieur d'une analyse. Dans l'analyse d'Aristote, chez les modernes, l'objet est quelque chose qui préexiste. Tandis que Christade et de saint Thomas, l'objet ne préexiste pas. L'objet détermine. Et vous saisissez l'objet comme objet à l'intérieur de l'analyse de la connaissance. C'est pour ça que je peux parler de ce qui détermine ce mouvement. Le mouvement est déterminé par sa fin. Oui. C'est pour ça que je ne peux saisir l'imagination dans toute sa pureté que lorsqu'elle s'éloigne de la sensation, lorsqu'elle est tout proche de la sensation. L'aspect vérité, ce que vous disiez tout à l'heure, est plus, mais l'aspect imaginatif propre est moins. C'est un mouvement dont la détermination propre ne peut se prendre qu'en fonction du terme de ce mouvement. Et c'est dans le terme de ce mouvement que je saisis le fruit de cette imagination. Et dans ce fruit, je vois ce qui la détermine et ce qui provient du sujet. Et je vois que l'objet, la détermination, m'est donné à travers le mouvement même de l'imagination. C'est ça qui est très curieux. Et c'est le propre de l'imagination. C'est pour ça que je dis, elle se donne. Il y a deux grandes études de l'imagination. Aristote et Kant. Kant est surtout intéressant. Quand on doit étudier Kant, il faut étudier la critique de l'imagination.
Et la doctrine de oui. La pensée de Sartre par rapport à l'imagination, ça vient de Kant aussi ?
Aussi. Elle est très importante et intéressante. Mais entre deux, il y a Kant. Et depuis Aristote jusqu'à Kant, il n'y a rien. C'est très très curieux. Oui. Parce que je crois que l'idée de la subjectivité transcendantale va provenir de ça, de l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui vous fait comprendre ce point de vue de la subjectivité transcendantale, que vous retrouvez pleinement dans la connaissance artistique.
On peut dire alors que ce que Kant dit de la connaissance est vrai par rapport à l'imagination.
Tout à fait. Parce que c'est son premier analogue. C'est ça qui est très curieux. Et ça permet de saisir ce qu'il y a de positif dans la pensée de Kant. Ce qui est toujours intéressant. Parce que si vous le prenez au niveau spéculatif, vous ne faites que le critiquer. Tandis que si vous le prenez du côté de la connaissance artistique, vous dites, ah mais oui, il y a quelque chose d'intéressant. Il a découvert quelque chose d'intéressant. Il a découvert la subjectivité transcendantale, ce qui est vrai du côté artistique. Oui.
Est-ce que l'imagination est toujours en acte?
Non. Non. Et même ni acte ni puissance. La sensation, elle est toujours présente. Elle s'exerce, ou bien elle s'exerce pas.
Elle s'exerce ou elle s'exerce pas.
Si tu veux prendre l'imagination à ce niveau-là, à partir du moment où tu sens, t'imagines.
Oui.
Mais si tu prends l'imagination à ce degré-là, là non. Parce que là, il faut vouloir pour
dans le sommeil.
Dans le sommeil, elle continue de rouler.
Si,
c'est sûr. Dans
la journée, je sens constamment, finalement, l'imagination.
Ah oui, tout en acte.
C'est
évident.
Ah, oui.
Vous le savez bien, du reste.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut souffrir.
On le sait bien, que l'imagination est pas
mouvant. D'ailleurs, il y a de souvenirs que s'il y a imagination.
Oui,
si demain, je suis capable de me souvenir de ce qui s'est passé aujourd'hui,
aujourd'hui,
il y a l'imagination.
Grâce à l'imagination, le souvenir existe et la mémoire existe.
Parce que le souvenir, comme il y a plus loin dans un autre traité, le souvenir c'est. Enfin, j'ai noté ça.
Oui.
Quand Aristote parle du souvenir, du rêve, il relie ça à l'imagination.
Tout à fait.
C'est intéressant.
Le rêve, c'est le fond, c'est l'imagination. Lié à un souvenir.
Et on peut dire que l'imagination est toujours en acte.
Pas bah, forcément. Vous n'arrivez pas à l'arrêter.
C'est
vous n'avez qu'un pouvoir politique sur votre imaginaire. Parce qu'il est toujours en acte.
Peut-être
parce
que vous dites.
Quoi ?
Pouvoir politique, qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est qu'un peu indirect.
Donc, c'est-à-dire qu'on...
Vous ne pouvez pas dire à l'imagination, tais-toi. Tandis que vous pouvez mettre votre main sur vos yeux et ne pas regarder. Et quand vous mettez votre main sur vos yeux, votre imaginaire, pas la campagne. Vous voyez, vous reposez l'imaginaire par la sensation.
Ah oui.
C'est ça la méthode vitose.
par l'intelligence.
Et par l'intelligence, mais comme par l'intelligence, c'est plus rare. La méthode Vitos va du côté de la sensation. Mais il y a un Vitos philosophique qui est le nôtre. C'est par l'intelligence. Oui, c'est ça, c'est par l'intelligence. Le jugement d'existence. Ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est du Vitos supérieur.
La personne dans ce qu'elle dit elle-même, en fin de compte, elle est fausse, je veux dire.
De quoi ? Ni fausse, ni
vraie. Dans ce qu'elle a plus elle-même, l'imagination, elle est fausse.
Quand elle est toute terne, elle n'est pas fausse.
Ni fausse, ni vraie.
Elle n'est ni vraie, ni fausse. Elle est. Elle est une représentation. Pas une représentation.
C'est complètement dirait.
Quoi ? Mais non. Mettez deux petites oreilles pour le chat. Vous vous représentez le chat, c'est imaginatif, ça. C'est pas faux. La preuve, c'est que vous tout de suite vous dites ah, tiens, c'est un chat, c'est un mignon.
C'est
l'art intervient déjà à ce niveau-là. C'est une espèce de simplification d'imaginaire. Oui.
On peut dire qu'il y a un degré de vie différent dans l'intelligence, parce qu'il y a une nouvelle finalité qui est de connaître pour connaître.
Oui, il n'y a pas de finalité dans l'imaginaire.
Oui, mais alors est-ce qu'on ne pourrait pas objecter que la plupart des gens imaginent et restent dans l'imagination, donc il y a une certaine finalité que ça a imaginé pour le plaisir d'imaginer.
Mais tiens, vous savez bien ce que dit Aristote, et saint Thomas l'a repris. Ut in pluribus manat in sensu.
Pourquoi on pourrait pas.
Donc, inimaginatione. Manat in imaginatione. La plupart des hommes demeurent dans l'imaginaire.
Alors justement, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas poser un degré de vie de l'imagination en ce sens qu'il y a une imagination, j'imagine, pour le plaisir d'imaginer indépendamment de toute sensation.
Mais c'est parce que c'est pas un degré particulier. Reste la sensation. Et la sensation est un degré. Si je prends les degrés de vie en fonction de l'autonomie et de l'immanence, oui, c'est le même degré de vie.
Parce qu'il n'y a pas d'autonomie.
Non. Il y a un point de départ d'une autonomie, mais il n'y a pas d'autonomie puisque c'est pas réel. L'imaginaire n'est pas réel. Il est purement intentionnel. C'est de l'ordre de la forme intentionnelle. C'est réel en tant qu'il est intentionnel. Mais c'est pas le réel tout court.
J'ai une question à vous poser.
Oui.
Par rapport à l'imagination, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un sensible intentionnel pour l'imagination ? Est-ce que c'est contradictoire ?
Non, c'est pas le sens. L'intentionnel peut être sensible.
Donc c'est bon, je peux parler de...
Tout à fait, l'intentionnel sensible. Un intentionnel sensible ou un sensible intentionnel, peu importe. Mais c'est de l'intentionnel pur. Je suis dans l'intentionnalité. Ce point de départ de l'intentionnalité provient des sensations. Mais ce point de départ, je le quitte quand l'imagination commence à battre la campagne. Vous voyez ? Pour être dans le pur imaginaire. Et quand je suis en pleine vitalité de recherche, alors mon imaginaire, il est doublement canalisé. Par la sensation et par l'intelligence.
Parce que Aristote dit que la sensation est toujours donnée, tandis que l'imagination ne l'est pas.
Oui, mais attention.
C'est dans le sens où elle est canalisée.
Dans le sens où elle est canalisée.
À ce moment-là,
oui.
C'est dans ce sens-là.
Où est-ce que c'est quelle phrase ?
Où est-ce que 76.
76.
428. Ah. C'est le deuxième paragraphe, ça doit être ligne 6 ou 7.
Et l'imagination ne pourra non plus s'identifier à aucune des opérations qui sont toujours vraies comme la science et l'intellection. L'imagination est aussi bien.
Non, c'est pas tu.
Au-dessus. Que l'imagination ne soit pas la sensation, voici la preuve. La sensation est puissance ou acte, vue ou vision. Par contre, une image peut se produire même en l'absence de l'une ou de l'autre, car c'est le cas des images perçues pendant le sommeil.
Non, c'est là. De plus, sa sensation.
De plus, sa sensation est toujours présente, tandis que l'imagination ne l'est pas. Dit d'autre part, elle était identique en acte. Toutes les bêtes pourraient passer
de la raison courte.
Il ne semble pas que ce soit le cas, par exemple pour la fourmi, l'abeille ou le ver. En outre, les sensations sont toujours vraies, dit les images.
76.
Oui, je vois très bien ce que vous dire. Mais est-ce qu'il ne parle pas là de la connaissance comme telle?
La connaissance imaginaire?
Oui.
Alors c'est dans ce sens-là où on pourrait dire qu'elle est soit en acte, soit en puissance. C'est au niveau de la connaissance imaginaire. Oui. Il faut distinguer la connaissance imaginaire d'une imagination.
Mais la connaissance, c'est le problème de la vérité.
C'est l'imagination qui est liée au volontaire.
Oui.
C'est celle-là qui n'est pas toujours présente.
Oui, alors.
On entend toutes les espèces du genre animal. C'est-à-dire que la sensation serait présente dans tous les animaux. Tous les animaux.
Ah, tous les animaux, la sensation, c'est évident.
Tous les animaux, donc,
dans tous les animaux, selon Aristote.
Oui, c'est vrai. Oui. À cause
de... Selon Aristote. Ça, j'en sais rien. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on serait plutôt à tendance de dire que tous les animaux ont l'imaginaire.
Mais il faut répondre que. Il faut, il dit plus loin, je ne sais plus où, il faut quand même une certaine perfection dans la sensation pour qu'il puisse y avoir imagination. Et il parle, et d'ailleurs à la fin du chapitre, on parle de la vue, on relie la, par l'étymologie, on relie l'imagination
à la sensation.
Oui, fantasia, phaos. Qui voudrait dire qu'il faut, c'est presque nécessaire qu'il y ait le sens de la vision pour qu'il y ait imagination. Il faut qu'il y ait une certaine perfection dans la sensation.
Mais non, de toute façon, quelqu'un aveugle, à l'imagination.
Tiens, oui, alors il compense avec Louis.
Oui, il compense. Il compense. Mais ce qui existe plus chez les aveugles, c'est chez les animaux.
C'est pour ça qu'on ne peut jamais avoir la certitude.
Je n'ai pas compris.
Ce qui est vrai des aveugles peut être vrai des animaux. Un chien qui a un odorat extrêmement poussé. Alors, il a, je crois, et il me semble qu'on pourrait pousser ce que dit Aristote, c'est qu'il y a l'imagination. Je suis d'accord avec vous, l'imagination la plus caractéristique, elle est liée à la vision.
Mais je pense qu'il faut quand même au moins trois sens. Quand même.
Pour l'imagination, pourquoi?
Tu penses qu'avec un sens, il y a une imagination?
Ah, ben un sens, mais quel est l'animal qui a qu'un sens?
Le ver de terre.
Ver de terre, je crois. Ver de terre et.
La vue.
Quoi?
Il n'y a pas la vue?
Il est bien vivide. C'est les TGV, ils sont deux yeux.
Mais ils ont encore le goût et le toucher.
Le goût. Le sourd. Muet.
Oui, c'est
mais ils ont le goût et l'odorant. Du toucher. Sans le toucher. Un animal qui n'aurait que le toucher. Alors, je crois que pour Aristote, un animal qui a le toucher ne peut pas avoir l'imagination. Ça, je suis d'accord avec vous, là. Vous voyez? Mais, ce que dit Aristote, étant donné que lui, n'avait pas de possibilité de saisir l'imaginaire. Nous avons, nous, des possibilités de saisir plus d'imaginaire que lui. Vous voyez, par exemple, que les animaux, quand ils dorment, on peut voir s'il y a une certaine imagination. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si on l'a fait pour les vers de terre.
On l'a fait pour les... Chez les robotons, ils l'ont fait pour les vaches.
Ah oui, pour les vaches, c'est gros, ça va.
La vache, elle a tout le sens qu'on a.
Oui, la vache, pendant la nuit, elle, son lait est battu et devient du beurre. C'est comme ça, parce que ça s'agite.
C'est quoi cette histoire? Au niveau de l'anatomie.
Enfin, est-ce qu'on l'a fait au niveau des vers? Je ne sais pas si on l'a fait.
Non, au niveau de l'anatomie, en neurophysiologie. On peut voir ces animaux ont des structures analogues à celles
qui... Oui, parce qu'il y a des organes.
Oui. Donc ça, c'est ça.
Et l'organe de l'imagination est autre que l'organe de la sensation.
Où est-ce qu'il se situe l'organe? Alors, c'est tous les noyaux qui rassemblent des différentes informations sensorielles.
Oui.
Ils se trouvent en dessous du néocortex.
En dessous du...
Le néocortex, c'est tout l'hypothalamus.
Oui, cortex, oui. Là, il semblerait qu'on ait relation pour chaque sensation.
Toutes les sensations sont reliées les unes aux autres. Les aires émotionnelles.
Un noyau qui serait le point de vue de l'imaginer. Et ces différents noyaux sont reliés entre eux. Donc on a des degrés d'imagination plus ou moins parfaite, mais la qualité de l'imagination se trouve reliée à chaque sensation.
Mais des aires de mémorisation proches.
Oui. Bah, c'est ce que je crois philosophiquement. Mais ça m'intéresse, ça confirme ça. Parce que ça, il me semble bien que la sensation comme telle demande ce prolongement.
Mais ça doit se travailler, parce que faire la relation entre, par exemple, les odeurs, ils sont quelque chose qu'on voit. Quand on enlève la vue, on laisse que l'odeur, des fois on a du mal à retrouver l'objet qui dégage le parfum.
L'odeur et les souvenirs.
Oui, oui.
Les goûts et les souvenirs.
Le goût et les souvenirs. Ouais. La madeleine.
Et puis l'affectivité intervient.
Oh, l'affectivité. Elle intervient beaucoup pour l'odeur.
Les études faites chez les requins, justement.
Chez le requin.
Par rapport à, ils ont une racine.
Mais les racines très développées chez le requin.
Et avec le goût du sang ou l'odeur, je sais pas ce qu'il y
a. Ah, c'est le goût du sang.
On voit ça en gros.
J'ai une imagination sans qui.
Comment on peut discerner un pur rêve imaginatif d'un rêve prémonitoire ou même d'un rêve prophétique?
Oui, c'est le prophète qui le sait.
C'est toujours un rêve.
C'est le prophète qui le sait. Parce que si c'est un rêve prophétique, il n'y a pas que l'imagination, il y a l'action de Dieu. Si c'est un rêve prémonitoire, il y a l'action de la cogitative et de l'intelligence. Vous voyez, c'est en fonction, je crois, de la qualité et de la signification de ce rêve. Un rêve, il y a toujours une certaine... C'est dans les cauchemars, il y a toujours une certaine signification. Tandis que dans les rêves, il n'y a pas toujours de signification. Ça passe. Et je crois que c'est la question de la signification qui apporte quelque chose de plus et qui le relie à la différence.
Vous dites des choses très intéressantes là-dessus, vous êtes poussé beaucoup trop loin par rapport à la signification.
Parce que vous voyez, c'est beaucoup...
Il construit toute sa pensée là-dessus.
Mais oui, mais c'est beaucoup trop poussé.
Il y a quand même des choses vraies quand même.
Mais c'est forcé. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est beaucoup trop poussé. Et alors je dirais, dans la mesure où c'est poussé, ça n'a plus aucun intérêt pour le philosophe. Ce qui m'intéresse au point de vue philosophique, c'est presque la matière brute des rêves. Et ce qui m'avait beaucoup plus intéressé chez les psychanalystes, c'est que lorsqu'ils disaient que le malade, quand il faisait l'analyse des rêves, que quand le malade était moins malade, les sensibles propres revenaient dans les rêves. Alors que quand on est extrêmement malade, il n'y a pas de sensibles propres. On est convaincu uniquement des sensibles communs. C'est très curieux. C'est vrai que dans les cauchemars, c'est les sensibles communs qui vous paralysent.
Vous dites qu'il y a plus de signification dans le cauchemar.
Qu'est-ce qu'il y a?
Vous dites qu'il y a plus de signification dans le cauchemar.
Ah oui.
C'est pas parce qu'il y a plus de sensibles propres, justement?
Non, pas nécessairement. Parce que ça peut être une signification purement subjective. Le cauchemar est très subjectif et très affectif. C'est très affectif.
Alors c'est pour ça qu'on se souvient plus facilement d'un cauchemar que d'un rêve.
Ben, et